Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. La pensée d'Edith Stein et le témoignage de sa vie sont d'une grande richesse, mais peu connus. Pourtant, cette philosophe juive, devenue carmélite et canonisée en 1998 par Jean-Paul II, peut aider chacun à vivre selon son âme, c'est-à-dire en engageant tout son être. Qu'est-ce que l'âme pour Edith Stein? C'est la question que je pose à mon invité du jour, Bénédicte Bouillot, professeur de philosophie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bénédicte Bouillot.
Bonjour Florence Coppel.
Vous avez coécrit avec le carme Christophe Betschart une introduction à la philosophie d'Edith Stein, Éveille-toi mon âme, paru chez Desclés de Brouwer. Pour commencer, racontez-nous qui était Edith Stein.
Alors pour la présenter rapidement, Edith Stein est une philosophe allemande. Elle est née en 1891 à Breslau, en Prusse, dans une famille juive. Et puisqu'on parle de l'âme, on peut dire qu'enfant, elle est déjà très sensible à cette question de l'âme. Elle parle de ce monde caché au plus profond d'elle-même et de son désir de connaître l'âme humaine, celle des individus et celle des peuples. C'est ce qui va l'orienter d'abord vers la psychologie et puis elle découvre la phénoménologie, une démarche philosophique nouvelle initiée par Husserl, qui veut refonder le savoir à partir de l'expérience. Elle fait une thèse sur l'empathie, dirigée par Husserl. Elle tente plusieurs fois d'obtenir une chaire de philosophie qu'elle n'obtiendra pas, malgré ses qualités reconnues, parce qu'elle est une femme. Et puis quand elle obtiendra un poste en 1932 à Münster, c'est en tant que juive, cette fois, qu'elle devra renoncer. Là, entre-temps, Edith Stein est devenue chrétienne. Elle est baptisée à l'âge de 30 ans, après un long cheminement personnel. Il faut savoir qu'à l'époque où elle commence à s'intéresser au christianisme, elle s'était éloignée de la foi juive. Et c'est une fois chrétienne qu'elle découvrira en fait toute la profondeur de la foi juive et l'importance de cet enracinement de la foi chrétienne dans la foi juive. Là, après sa conversion, en même temps qu'elle poursuit son travail intellectuel, notamment des travaux sur Thomas d'Aquin, elle enseigne dans une école tenue par des dominicaines à Speyer, qui va la conduire à toute une réflexion sur l'éducation et la place des femmes dans cette époque de grand bouleversement de la condition des femmes. Elle s'engage aussi très tôt dans la résistance contre le nazisme, jusqu'à demander à Pie XI en 1933 sa condamnation officielle par l'Église. Et c'est aussi cette année-là, en 1933, qu'elle entre au Carmel de Cologne, où elle prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. 12 ans plus tôt, c'est la lecture de l'autobiographie de Thérèse d'Avila, qui avait l'événement décisif qui l'avait conduite au baptême et qui l'avait convaincue que sa place était au Carmel. Au Carmel, elle poursuit son travail intellectuel à la demande de ses supérieurs. Et en 1936, elle publie sa grande œuvre « Lettres finies et lettres éternelles ». En 1938, après la nuit de cristal, elle s'exile aux Pays-Bas, elle rejoint le Carmel d'Echt. C'est là qu'elle est arrêtée fin juillet 1942. Elle était en train de terminer la rédaction de La science de la croix, un ouvrage sur Jean de la Croix. Et elle est déportée à Westerbork, puis à Auschwitz-Birkenau, où elle meurt le 9 août 1942. Il faut peut-être préciser qu'elle a été canonisée, déclarée copatronne de l'Europe par Jean-Paul II, voilà, et qu'il est aujourd'hui question qu'elle devienne docteur de l'Église.
Oui, donc une grande femme, on pourrait dire, en tout cas, et qui dont l'histoire est très inspirante.
Alors, le propre de la phénoménologie que j'évoquais tout à l'heure, c'est de revenir à l'expérience, au sens vécu des choses, hein, de nous faire prendre conscience de la richesse, de la profondeur de notre expérience familière, expérience quotidienne, mais une expérience que souvent on habite que très superficiellement. Alors qu'est-ce que cette expérience de l'âme, comment on y accède? Les deux questions sont indissociables, hein, pour une phénoménologue. Chez Edith Stein, cette mise en lumière de l'âme, elle est liée à l'attention tout particulière qu'elle prête à la dimension affective de notre rapport au monde. Hein, il y a quelque chose de particulier dans des expériences comme le sentiment ou la volonté. c'est que dans ces expériences, je ne peux pas m'oublier. Je me sens impliquée. En sentant quelque chose, en voulant quelque chose, je ne peux pas ne pas me sentir moi-même être affectée ou voulant quelque chose. Alors que dans des expériences comme la perception ou la connaissance pure, souvent la conscience, le moi, est totalement dirigé vers l'objet qu'il perçoit ou qu'il cherche à connaître et il s'oublie lui-même comme sujet. Et le sentiment, donc, si on l'analyse, il n'est pas simplement sentir de soi-même et sentir d'un objet, comme on disait, mais aussi sentir d'une valeur. Quand quelque chose m'est donné dans l'expérience, c'est toujours coloré d'une certaine valeur. Et ces valeurs, elles sont elles-mêmes corrélées à des couches de profondeur en nous. Si on prend l'exemple de la douleur liée à une disparition, cette douleur, on peut sentir qu'elle émane de couches intérieures plus ou moins profondes, selon la valeur de l'objet disparu. La perte d'un simple bijou, ça va affecter une couche intérieure moins profonde que si c'est un bijou offert par un être cher, et à plus forte raison si c'est un être cher qui a disparu. Voilà. Et donc, à travers ces vécus de sentiments et de volonté, on découvre un espace intérieur, c'est ça l'âme, qui est donc formé de couches de profondeur qui se dévoilent à la faveur de la rencontre avec ces réalités chargées de valeurs. Alors bien sûr, ce dévoilement, il n'est pas automatique, ça suppose une disposition d'accueil et d'ouverture, mais voilà, dans cette ouverture, on n'a jamais fini de découvrir la profondeur, la largeur, la hauteur de cet espace intérieur. Comme le dit Edith Stein, à qui ne rencontre une personne digne d'amour peut ne jamais éprouver les profondeurs où s'enracine l'amour.
Alors, on comprend que c'est très lié à plein de choses, finalement, l'âme. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre, Edith Stein, elle va relier ça à la fois au corps, à l'esprit. Oui. Enfin, justement, elle va sortir de cette dichotomie qu'il y avait peut-être entre l'âme et l'esprit, on pourrait dire, ou le corps et l'esprit. Alors, on voit bien, l'âme, ça englobe beaucoup de choses, c'est un endroit très profond en nous. Qu'est-ce que Edith Stein apporte de novateur par rapport à cette question ?
Alors, Edith Stein, elle réfléchit à une époque où la notion d'âme est très sérieusement critiquée de toutes parts en philosophie, même en théologie. Alors que cette notion a été au cœur de tout le discours sur l'homme dans la pensée occidentale, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et au XXe siècle, on reproche notamment à cette notion d'âme d'être trop abstraite, d'être déduite d'une métaphysique trop spéculative. Et de ce point de vue, le grand intérêt de la philosophie d'Edith Stein, c'est, comme on vient de l'expliquer, de repartir de l'expérience et de faire apparaître en quoi l'âme n'est pas un connu X, comme elle dit, mais au contraire quelque chose qui peut nous apparaître et se faire sentir, tout en restant toujours plein de mystères. Donc ça, c'est un apport essentiel. Et justement, on a aussi reproché à la notion d'âme de favoriser un dualisme qui opposerait l'âme au corps ou qui empêcherait de penser la vie humaine dans son unité concrète. Or, Edith Stein, précisément, ne pense pas en termes d'âme et de corps, mais selon une triade, corps, âme, esprit. Et l'âme, c'est précisément ce qui assure l'unité des trois, l'unité entre la dimension intérieure de notre vie et puis la dimension extérieure à laquelle on est ouvert par le corps et l'esprit. L'unité aussi entre les dimensions affectives et rationnelles de notre âme, puisque l'âme, c'est ce par quoi la réalité extérieure est ressentie, intériorisée, faite chair et sang, accueillie en nous. Voilà, et c'est dans ce double mouvement d'ouverture au monde et d'intériorisation qu'on apprend à déchiffrer le sens du monde qui s'offre à nous et qu'on peut du coup exercer sa liberté à partir de cette volonté qui se creuse dans cet espace intérieur. Voilà, c'est dans ce processus dynamique que notre personnalité se façonne. Et voilà, donc Edith Stein nous offre des éléments pertinents aujourd'hui pour reposer cette question de la subjectivité, de la personnalité, de l'identité personnelle. Et de notre liberté.
Alors, à quoi nous invite Edith Stein aujourd'hui ? Comment peut-elle nous inspirer dans notre quotidien, on pourrait dire ?
Je crois qu'un des apports essentiels de la réflexion d'Edichstein, c'est qu'elle nous aide à mieux prendre conscience de la potentielle richesse inépuisable en fait de notre vie intérieure et de la responsabilité aussi que nous avons à tenir notre âme éveillée, hein, parce que on peut vivre sans âme, comme le dit Edichstein, hein, ou avec, c'est-à-dire avec une âme paralysée, une âme en sommeil, hein, qui rejoint la réflexion de Bernanos sur ces hommes sans nombre qui naissent, vivent et meurent sans s'être une seule fois servi de leur âme, me dit Bernanos, hein, réellement servi de leur âme. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans nos sociétés où tout va très vite, dans un monde aussi qui est dominé par la technique et où l'esprit a tendance à être réduit à une raison calculatrice, instrumentale, on peut oublier ces ressources intérieures de l'âme. On peut rester fermé à cette source de vie en nous qu'est l'âme. Une vie dont l'âme n'est pas le principe, mais qu'elle reçoit elle-même de l'accueil de tout ce qui peut la nourrir en profondeur, de l'attention à ce qui s'offre à elle à travers des rencontres, à travers l'art, à travers des lectures, à travers la prière, hein, puisque dans le lieu le plus profond de l'âme, dit Edichstein, demeure Dieu. Hein. Et Edichstein, autre chose qui me paraît intéressante, c'est qu'Edichstein parle du repos qui se trouve au plus profond de l'âme. Hein. Elle parle dans l'espace de l'âme, d'un endroit où le moi, la conscience, a sa place propre, le lieu de son repos, hein, qui se doit de chercher, elle dit, aussi longtemps qu'il ne l'a pas trouvé, et auquel il se doit de revenir à chaque fois qu'il s'en est extrait. Voilà. Puis dans lequel il y a Dieu, dit-elle.
Merci Bénédicte Bouillot. Je rappelle le titre de votre livre, Éveille-toi mon âme, paru chez Desclés de Brouwer. Un grand merci à tous d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.